Bientôt la fin de Mange ta soupe. Et enfin, last but not least, la rubrique locale et sociale.
Babylone se fait haine devant quiconque prend réellement plaisir à la vie, au lieu de seulement dépenser de l'argent en quelques vaines tentatives pour acheter l'illusion du plaisir. Dans une société, le vrai plaisir est plus dangereux qu'un braquage de banque. Au moins, les braqueurs de banque partagent le respect des masses pour l'argent. Mais vous, les pervers, vous méritez clairement de mourir sur le bûcher. Soudain, les flics pullulent et débarquent par légions de tous côtés. Vos papiers sont en ordre. C'était la quatrième de couverture du bouquin d'Akinbi intitulé « Zone interdite ».
Et bien après Akinbi qui a été cité par la Lorette en face d'un lieu de pèlerinage très important en Bretagne, on reparlera un petit peu des curés tout à l'heure parce qu'on peut pas faire une émission anti sans aussi balancer sur les curés. Maintenant place pour rubrique sociale locale à Saul Alinsky dont la pièce maîtresse vient de ressortir en français, ça s'appelle « Être radical ». Manuel pragmatique pour radicaux réalistes. Tiens, des radicaux réalistes. C'est sorti en 1971 aux États-Unis et puis juste un an après en France, mais ça a été très mal distribué, très vite épuisé. Les éditions Aden refont une nouvelle traduction et une nouvelle édition et à cette occasion, on va recevoir Daniel Zamora qui est le préfacier. Salut Daniel, donc tu es arrivé assez rapidement de l'ULB là, pour pouvoir être sur la fin de l'émission. Bonsoir.
Bonsoir.
Et donc à l'ULB, si j'ai bien compris, tu es chercheur, sociologue.
Oui.
Et tu fais aussi partie du PTB, puisqu'on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, autant le dire.
Tout à fait.
Voilà. Mais à côté de ça, tu t'intéresses d'assez proche à Saul Alinsky. Et tu as d'ailleurs co-écrit la préface de la nouvelle édition chez Aden. Tu as écrit ça avec qui, en fait?
Avec Nick Gortz, qui est aussi un chercheur à l'ULB en sociologie des organisations. Travaille sur le syndicalisme, qui est un thème assez proche.
Et qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir sur les thèses politiques d'agitation d'Alinsky?
Disons que je l'ai découvert sur Internet, pas en français en fait, puisqu'il était épuisé. Et j'ai trouvé son bouquin vraiment tout à fait paradoxal, parce que à la fois il donnait des pistes très très pragmatiques pour organiser, pour mobiliser les gens, mais en même temps avec une vision politique beaucoup plus large. Donc c'était pas uniquement un manuel au sens pratique du terme, il y a aussi une vision de la politique qui est dégagée dedans, que je trouve est peu présente chez nous.
Il y avait quelque chose aussi, même tout à fait loin du manuel, qui est une réflexion politique méta sur quasiment tous les modes d'action. Moi, je reconnais ici, puisqu'on fait une anti-chronique littéraire, que j'ai pas relu le bouquin en français, mais j'ai bien lu attentivement ta préface et puis j'avais lu quelques petits morceaux en anglais précédemment. Et donc c'est chouette que ce soit ressorti. Et donc sur les circonstances de la sortie, faut savoir que la collection La Grande chez Aden, en général, ça tire pas tellement fort. Et là, on est à près de 2000 exemplaires. Et je trouve là, sur le dos de... sur la quatrième de couverture, une citation de Noam Chomsky, et je me demandais un petit peu si Gilles Martin, donc grand animateur de Aden, n'essayait pas un peu de surfer sur le truc, quoi. En fait, il dit que l'esprit d'Alinsky occupe encore les esprits jusqu'au récent mouvement Occupy Wall Street, ou les indignés en Europe. Est-ce que ça, c'est le fonds de commerce, c'est la recherche des clients pour la nouvelle édition? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Occupy Wall Street avec Alinsky?
Je pense que non, qu'en fond, Alinsky s'inscrit tout à fait, et que Occupy Wall Street s'inscrit vraiment dans l'esprit d'Alinsky. C'est-à-dire d'une conception de la politique qui est anti-institutionnelle et qui passe par l'organisation des gens eux-mêmes, mais par aussi des actions assez spectaculaires, symboliques, qui étaient le genre d'action prônée par Alinsky.
Et donc, il s'inscrit dans quelle période, lui? Parce que le bouquin en 71, donc c'est après les années 65-68, 68 aux États-Unis, les révoltes de Watts, le mouvement des droits civiques et puis les Noirs américains qui s'organisent. Est-ce que lui, c'était un agitateur? Il donnait des outils intellectuels?
Disons que lui, c'était avant tout, c'est un des premiers à avoir, un des pères fondateurs du community organizing. Donc déjà, fin des années 30, il a organisé à Chicago des quartiers très très pauvres. Donc un des quartiers qui s'appelait Back of the Yards, qui est un des quartiers dont Upton Sinclair a écrit un livre qui est très connu. Et puis, pendant toute sa vie, jusqu'en 72, effectivement, il va faire ce genre d'action. Alors, sur les Afro-Américains, un des aspects intéressants, c'est que c'est un des premiers à avoir organisé des Afro-Américains sur la question des luttes urbaines, donc sur la question de la ségrégation urbaine dans les villes, spécifiquement à Chicago. Donc là-dessus, effectivement, il a un apport spécifique.
Quand tu dis, Daniel, qu'il a organisé les luttes, ça veut dire qu'il allait dans les meetings et il donnait des outils, ou alors il était leader?
C'est même plus que ça. Il a organisé, entre guillemets, les collectifs ou les organisations, entre guillemets, qui ont mené ces luttes. Donc à Chicago, c'est lui qui a lancé des organisations noires qui s'appellent The Woodlawn Organization. Bon, c'est lui qui l'a construite. On l'appelait dans les quartiers. On faisait appel à lui. Ça, c'est dans les années 60. Ouais. On faisait appel à lui pour mobiliser, pour essayer d'aider les gens, à organiser les gens pour lutter pour leurs droits.
Mm-hmm. Donc, c'était pas le même type que Noam Chomsky aujourd'hui qui remplit des auditoires de bobos.
Disons qu'il avait un sens pratique et un aspect militant beaucoup plus fort, ça c'est sûr. Mm-hmm.
Alors, il y a quelque chose qui m'a intéressé, et d'ailleurs, tu as choisi de le reprendre dans la préface, c'est la pauvreté comme point de départ. Hein. C'était pas tellement difficile dans les années 50, 60 et début des années 70 aux États-Unis de trouver des poches de pauvreté dont l'État ne s'occupait pas. Alinsky a une conception particulière du pouvoir et de l'État, on y reviendra peut-être, j'espère. Mais dans ton introduction, tu as relevé en fait que dans son analyse du pouvoir et des institutions, il note, là je te cite, un des enjeux des luttes politiques, la pauvreté. Selon qu'on la déclare comme le résultat d'une forme d'irresponsabilité et de dépendance des pauvres vis-à-vis de l'État, ou alors comme la résultante d'un rapport de pouvoir, les solutions sont bien entendu différentes. La perspective d'action politique d'Alinsky est enracinée dans ces rapports de pouvoir, de domination, d'oppression au visage familier institutionnel.
Oui, mais disons qu'effectivement, pour Alinsky, donc j'aime beaucoup cette phrase, il dit voilà, les pauvres ne sont pas uniquement des pauvres économiques, mais sont pauvres en pouvoir politique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent et que dans le discours aujourd'hui, on entend rarement. Le pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Mais l'idée que le pauvre est aussi quelqu'un qui n'a pas assez de moyens d'action, en fait, pour agir, pour avoir de l'autonomie vis-à-vis de sa propre vie et son destin, est une question qui est tout à fait absente et qui est chez Alinsky, et donc qui s'oppose à une vision institutionnelle de l'aide sociale. Les pauvres doivent subvenir eux-mêmes à leurs besoins et donc pour ça ils doivent s'auto-organiser.
Parce que l'aide sociale, c'est un assujettissement à un pouvoir supérieur.
D'une certaine façon. Alors il y a un mot que j'apprécie où il a une critique du welfare state. Il dit voilà, c'est le welfare colonialisme. Donc il compare le welfare state à une sorte de colonialisme où il y a les institutions qui donnent aux pauvres. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est contre les réformes et l'aide sociale. Ça veut dire qu'il pense qu'elles doivent être acquises par l'organisation des pauvres eux-mêmes, et pas donnée.
Donc il ne s'agit pas d'aller demander les morceaux de pouvoir, mais d'organiser le pouvoir lui-même. Le pouvoir, justement, sa définition, tu la reprends dans la préface. Tu écris donc, Alinsky, dans sa conception, élargit substantiellement la notion de pouvoir et son champ d'étude. Le pouvoir, ce n'est pas seulement défini par les positions occupées au sein de la structure sociale, de l'État plus particulièrement, mais comme, et là tu le cites lui, la capacité dans un groupe social donné de mobiliser des ressources via des formes organisationnelles afin d'agir collectivement en fonction de ses intérêts et puis d'acquérir ainsi un poids dans l'arène politique. Est-ce que c'est pas simplement organiser un pouvoir contre pouvoir, ça?
Oui, effectivement. Lui, il a une conception de la politique qui est, c'est le rapport de force et si on veut quelque chose, on doit développer du pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, avant lui, ou même aujourd'hui, généralement, le pouvoir, c'est vraiment associé à des positions. Donc là, il dit non. C'est est-ce qu'on a des ressources collectives d'action, puisque les pauvres n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de ressources institutionnelles et donc ils n'ont que leur nombre. Ça, c'est une phrase aussi qu'il donne pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent.
Et tu entends que ça peut un petit peu frapper, ne fût-ce que les acheteurs réguliers de la grande collection d'Aden, plutôt Anar, qui vont pas supporter peut-être l'idée qu'on remplace un pouvoir par un pouvoir ou qu'on rentre dans des jeux de position sur les pouvoirs entre les pauvres dans les quartiers et puis le pouvoir institutionnel de l'État, c'est quelque part légitimer l'État. Alinsky, il est radical au point de refuser l'État ou alors il travaille avec l'État?
Non, il dit l'État, il n'est pas On peut dire d'une certaine manière qu'au fond, on pourrait le décrire comme une sorte d'anarcho-syndicaliste urbain, mais dans la pratique, ce qu'il fait, c'est qu'il dit on doit obtenir de l'État les réformes qu'on veut. Et donc il n'est pas contre l'État de manière générale, il n'a pas une critique acerbe en disant il faut détruire l'État, mais il dit il faut qu'on aille des contre-États d'une certaine manière, ou des contre-pouvoirs, des gens eux-mêmes pour pouvoir contrôler, pour pouvoir influer sur les décisions politiques. Donc c'est pour ça, d'une certaine manière, qu'il se décrit un peu comme un radical réaliste, il n'est pas anarchiste au sens classique.
C'est ça qui m'avait complètement frappé quand j'ai reçu ce bouquin entre les mains, c'est Manuel pragmatique pour radicaux réalistes. Comme on fait une émission anti et qu'on est très radicaux, de temps en temps on a montré qu'on pouvait aller dans la nuance, mais là pas du tout. On va s'écouter Brigitte Fontaine pendant 30 secondes pour un peu attaquer le clergé parce qu'on a oublié d'en parler pendant une heure. Ah, c'était court, mais c'était la petite touche anti-curé qui manquait. Alors, Être radical, manuel pragmatique pour radicaux réalistes, préfacé par Daniel Zamora qui est venu ce soir nous en parler. Merci beaucoup, Daniel.
Merci à vous.
Ça se trouve évidemment en version pirate sur Internet, ou alors pour ceux qui veulent les acheter chez Aden, ça coûte 16 euros ou ça se vole dans les grands magasins. Voilà, j'ai fini pour la rubrique sociale locale, Leslie.
Mais t'es anti-clérical, anti-grand magasin, ou anti-pouvoir, ou
anti-bobo, il aime pas avoir mal aussi, je crois.
Anti-bobo, anti-syndical.
Ah, j'ai déjà débordé, je peux pas répondre.
D'accord, bien vu.